commence bien, le micro est parti. Bon, j'allais vers toi, Corentin.
Bon, ça va.
Voilà, vous allez bien ? Oh, c'est timide, ça. Ah, je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup dormi, mais ce n'est pas une raison. Donc, je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc, le sujet est très simple ce matin. Et souvent, quand le sujet est simple, c'est difficile de bien y rester. Donc, ça s'appelle « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et moi, ça tournait en boucle dans ma tête, mais ça fait déjà assez longtemps. Et quand on entend ce verset-là, on pense à l'église, on pense peut-être à notre maison. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et moi, ce que le Seigneur m'a dit, c'est que c'est mon cœur sera appelé une maison de prière. Et ça s'adresse à nous personnellement. Donc, chacun d'entre vous, vous êtes une maison de prière. Amen. Vous pouvez dire ça à votre voisin. Tu es une maison de prière. Vraiment une maison de prière. Vous savez que la prière, c'est une puissance de Dieu. Et le Seigneur nous a donné ce moyen de nous adresser à lui pour différentes choses. Mais c'est sûrement la puissance la plus importante que le Seigneur nous a donnée aux hommes sur cette terre. C'est de pouvoir lui parler et lui parler des hommes qui sont autour de nous, des femmes qui sont autour de nous, des événements qui sont autour de nous. Et voilà mon message, vous l'avez compris ? Bon, mais c'est fini. Alors, pas tout à fait. Donc, ça marche ? Ouais. Donc, ce passage, vous le connaissez, c'est dans Ésaïe 56, 7. Et comme c'est trop petit, si je vous le mets à l'écran, c'est pour que vous puissiez me suivre et pas vous endormir. Mais pour tous ceux qui ont une Bible, vous pouvez le prendre aussi. Donc, c'est dans Ésaïe 56. Donc, Ésaïe nous annonce la venue de Jésus. Donc, il y a beaucoup de passages prophétiques de l'annonce de Jésus. Et on dit aussi que c'est le cinquième évangile. Donc, dans ce passage-là, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. » Heureux l'homme qui fait cela, et le fils d'Adam qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». Avec la parole de Dieu s'adresse aux étrangers, comme vous savez que l'Évangile a été adressé au-delà de la nation juive. Car ainsi parle, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument, un renom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc c'était l'annonce que l'Évangile était bien pour tout le monde. Et que dans cette maison, bien sûr, ici dans ces murs, mais aussi dans votre maison et aussi et surtout dans votre cœur, le Seigneur veut susciter des prières. Et bien sûr, quand on parle de cette maison, de cette habitation, il y a les passages qui nous disent dans 1 Corinthiens que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, deux rappels simplement, vraiment pour que vous sachiez réellement quand vous avez donné votre vie au Seigneur, quand Christ est venu habiter dans votre cœur, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans votre cœur, vous ne vous appartenez plus, vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Et plus loin, donc 1 Corinthiens 6,19, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut bien dire que les choses ont changé. Et donc pour nous, il n'est plus question de vivre de la même façon, de parler de la même façon, mais vous êtes aussi des vases glorieux que le Seigneur veut remplir, et veut remplir pour qu'il déborde. Et que tout ce qui déborde, cette joie, cet amour, ça déborde, ça impacte le milieu là où vous êtes. Que vous soyez un parfum de bonne odeur. Quand il y a un parfum de bonne odeur dans une pièce, ça se remarque. Et là où vous êtes, dans le milieu où vous êtes, les prières, ce qu'il y a dans votre cœur, ce parfum peut se répandre autour de vous. Vous changez l'ambiance du lieu où vous êtes, quoi, par vos prières. Et donc pour reprendre, c'est très simple, hein, je ne vais pas vous donner des grandes leçons de théologie ce matin. Ce que je veux surtout, c'est que vous reteniez ça, que partout où vous êtes un instrument de Dieu, un instrument de prière. Et donc la prière, pour vous rappeler, c'est pour vous la décrire peut-être un peu plus précisément, c'est vraiment la rencontre entre l'homme et Dieu. Là, on est sur terre, nous. Dieu est au ciel. Et nous sommes les instruments de Dieu sur cette terre pour du naturel passer au surnaturel de Dieu, pour invoquer le Seigneur, que le surnaturel de Dieu se passe à la fois dans nos vies, mais dans la vie des autres, quoi. C'est pas du tout ordinaire, hein. Il n'y a que nous qui avons ça. Il faut se rappeler que il n'y a que nous qui avons cette possibilité-là de parler à Dieu, d'invoquer Dieu pour que le surnaturel de Dieu se passe dans les vies. Les choses, les situations qui sont bloquées, on ne sait pas comment ça va se passer, mais Dieu le sait, qu'il trouve le moyen, il a le moyen, tout est possible pour lui de renverser les situations trop compliquées pour les hommes. Et donc nous sommes un lien aussi entre la terre et le ciel. Donc, peut-être certains sont pressés d'aller rencontrer le Seigneur. Il y a des fois, je me dis, oui, ce serait bien de rencontrer le Seigneur rapidement, mais il a prévu pour nous une mission sur cette terre. Et une de ces missions, justement, c'est d'être auprès des hommes et des femmes, sel et lumière. Donc le sel, bien sûr, qui va assaisonner et qui peut éviter le pourrissement, et la lumière pour amener la lumière de Dieu, quoi. Et rappelez-vous que ce n'est pas votre propre lumière que vous apportez, puisque le Saint-Esprit vit en vous, mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand votre prière va venir de votre cœur, l'Esprit de Dieu va vous parler pour vous guider dans votre prière. Et sur la prière, on a vu notre historique souvent. Moi, j'en avais une idée très, très négative. Puisqu'en fait, quand moi j'ai appris à prier, c'était des choses qu'on radotait, qu'on répétait. Et je n'avais pas la foi ou une toute petite. Mais ça avait vraiment un côté négatif. Je me disais, mais à quoi ça sert, quoi? On répète des choses? Où ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et puis encore en plus, je l'avais perçu comme étant une punition, quoi. Et donc j'ai cheminé avec ça aussi, hein. Ces mensonges qui ont été déposés dans nos cœurs, ça nous colle pendant quelquefois très longtemps. Et quand j'ai compris que c'était vraiment pas ça, donc bien sûr à la conversion, et quand mes yeux se sont éclairés, que j'ai su que parler à la prière, c'était de parler à Dieu, et que j'avais ce canal ouvert, que je pouvais parler au Seigneur. Donc, c'était bien différent. Et je peux vous dire que les réunions de prière, je n'ai pas toujours trouvé ça intéressant. Et j'y allais à reculons. Bon, ça commence à faire des années quand même. Mais jusqu'au moment où j'ai pu y aller, et puis de façon un peu plus soutenue, parce qu'en fait, je m'associais à la prière de mes frères et de mes sœurs qui étaient autour de moi. Je les entendais, je disais « Oui, Seigneur, Amen ». Et en fait, la prière des uns et des autres, c'est comme une dynamique qui nous pousse de plus en plus loin, quoi. Et on est entraîné et soutenu par la prière des uns et des autres dans les groupes de prière et dans les lieux de prière comme celui-ci le mardi. Alors je crois aussi que c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour au Seigneur, qu'on lui fait confiance pour tout. C'est une déclaration d'amour qu'on a bien sûr envers lui, une déclaration de dépendance, dans le sens où Seigneur, vraiment tu peux tout. Et nous te remettons tout et on te fait confiance pour tous les sujets qu'on peut évoquer, tout ce que tu peux mettre dans notre cœur. Et c'est vraiment une prière d'appartenance, une démarche d'appartenance au Seigneur, de lui faire confiance en toutes choses. Et d'interdépendance, parce que, je vous ai dit, le Seigneur nous a placés sur cette terre. Maintenant, c'est lui qui est maître de toutes choses. Et il sait pourquoi il nous a placés sur cette terre en ce moment. Et il nous attend comme étant, bien sûr, celle et lumière des acteurs, des ouvriers avec le Seigneur. Et il aurait pu se passer de nous, hein. Bien sûr, mais le Seigneur, dans cet amour, a voulu que nous soyons des ouvriers avec lui, pas des ouvriers pour lui, hein, des ouvriers avec lui, c'est-à-dire à son écoute et parlant, agissant de la façon dont il nous aura décrit. Et ça m'a fait penser à une histoire, enfin une histoire vraie, donc ça c'était à la fin de la guerre 39-45, quand les Américains arrivaient en Allemagne, ils sont rentrés dans une église, je pense que c'était une cathédrale, je pense que c'était à Cologne, j'ai pas le lieu exact, et en fait il y avait une statue de Christ, donc de Christ bénissant, donc qui avait les bras levés, qui était tombée, et cette statue avait les mains amputées, et donc les soldats américains ont replacé la statue, et ils ont écrit en dessous God needs our hands. Dieu a besoin de nos mains. Et c'est très marquant comme image. Dieu a besoin de nos mains. Il a besoin de nos mains, bien sûr, pour agir, mais aussi pour prier, quoi. Et donc, aussi dans 1 Corinthiens 10, 12, il est dit que vous êtes le corps de Christ. Et donc, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et c'est vraiment ça la dimension de l'Église. J'aime à rappeler, parce que pour moi, c'est très facile de le comprendre, mais un corps, il est complet. Et chaque organe, chaque cellule a sa fonction, a sa nécessité dans l'harmonie du corps, dans sa santé. Toutes les fonctions, toutes les cellules sont absolument indispensables. Et bien sûr, vous savez, s'il y a un organe qui est malade, tout le corps va souffrir. Et donc, cette interdépendance, elle est aussi dans l'Église, et c'est pour ça que nos prières elles vont les uns vers les autres. Nous entraînons à prier aussi. Et donc, la prière est vraiment, s'adresse à chacun, à chaque chrétien. Donc, la prière et la foi. Donc, bien sûr, comment prier si on n'a pas la foi? Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne comprenais pas ce que je pouvais dire, enfin c'était même pire. Je pense que, alors que quand on a la foi, on sait pourquoi on prie. Et le Seigneur place dans notre cœur des sujets bien précis. Inutile de les évacuer, quelquefois, il y a vraiment des sujets qui reviennent et qui reviennent. Priez pour ça. C'est le Seigneur qui vous demande de vous adresser à lui pour vous ou pour quelqu'un. Hébreux 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est vraiment la boucle est bouclée. Le Seigneur a mis dans notre cœur la foi. Et nous croyons que quand nous ouvrons la bouche de la part du Seigneur, le Seigneur écoute. Et je peux vous dire que quand le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur pour prier, je sais que je peux prier avec assurance. Il y a quelquefois des prières très générales et le Seigneur bénit tout le monde. C'est très vaste et puis ce n'est pas suffisamment précis. Mais une prière très précise qui correspond aux besoins, on sait que c'est Dieu qui l'a mise dans notre cœur. Et on peut prier avec assurance parce que c'est lui qui est l'auteur de la prière. Et je parle de la foi comme l'énergie, enfin le carburant nécessaire à la prière. Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et donc la foi, bien sûr, on en a une petite dose quand on vient au Seigneur, plus ou moins grande, et ensuite elle se cultive. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et bien sûr, plus nous sommes ancrés et recherchant la parole de Dieu, plus cette foi s'installe. Et quand on lit, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire aussi que par rapport à ce qu'on peut entendre autour de nous, le message peut être perturbé, quoi. Et c'est pour ça que vous avez souvent peut-être vécu des situations difficiles où vous êtes dans une discussion puis vous sentez vraiment que ce qui est dit n'est pas bon. Donc là, vous retirez de la discussion, quoi. Mais vous pouvez entendre un tas de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais quelquefois, vous n'avez pas à la télé ou à la radio, mais vous n'avez pas forcément l'envie de tourner le bouton. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Donc bien sûr, notre cœur peut être pollué par tout ce qu'on entend. Donc la prière et le Saint-Esprit, Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même quand nous sommes bloqués, quand nous ne sommes pas inspirés, donc à avoir des paroles par nos soupirs. Le Seigneur a la traduction, il a l'interprétation de nos soupirs. Mais je crois réellement qu'une prière, elle est forte quand elle est inspirée de Dieu. Et il y a des moments, je peux rester dans le silence parce que je n'ai pas reçu quelque chose du Seigneur. Et je ne vais pas ouvrir la bouche pour prier. Et je préfère attendre. Le Seigneur dépose dans mon cœur, s'il déposera ou ne déposera pas, mais je préfère attendre qu'il mette dans mon cœur ce qu'il a prévu. Et je sais qu'à ce moment-là, la prière qui va venir, c'est lui, elle correspond à sa volonté. C'est lui qui a parlé. Donc rappelez-vous de ça, demandez au Seigneur d'inspirer vos prières. Lui connaît la vérité sur chacune des situations. Il connaît le début et la fin, tout le déroulement. Et je dis souvent, Seigneur, mets dans mon cœur ta volonté. Mets dans mon cœur ta volonté pour savoir comment prier. Pour savoir comment prier, justement. Parce que quelquefois, on peut dire, Seigneur, tu bénis, c'est un terme très très général, mais des bénédictions, quelquefois matérielles, peuvent malheureusement continuer d'éloigner la personne de Dieu, ou peuvent continuer de faire que vraiment ses yeux ne s'ouvrent pas, quoi, puisqu'en fait il peut être dans un contexte où il n'a pas besoin de Dieu, quoi. Mais Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il te connaisse, qu'il te rencontre. Alors ensuite, Luc 11, 1, 2. Donc là, c'est un exemple de comment Jésus priait. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et donc la prière, elle vient de Dieu, elle retourne à Dieu. Et que ton règne vienne, souvent on peut le dire ça, pour nous-mêmes, pour ceux qui sont autour de nous, que ton règne vienne, pas un autre règne, pas d'autres plans qui ne sont pas bons, même si ce ne sont pas des plans qui vont perdre les gens, mais que ton règne vienne, c'est de dire qu'il n'y a qu'un seul souverain dans notre vie. Et quelquefois, on peut avoir des vies partagées. Il y a Jésus, mais il y a quelque chose en plus, quoi. C'est Jésus plus quelque chose, quoi. Mais nos cœurs partagés, ça ne produit pas grand-chose, quoi. Mais que ton règne vienne, que tu sois souverain dans notre vie, sur toutes les actions, les activités de notre vie. La prière de la foi est inspirée. Donc Jean 11, 10, 42, Jésus lui dit... Donc ça, c'est, on parle de la mort et de la résurrection de Lazare. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Avant que les choses arrivent, avant que Lazare soit ressuscité, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici. » Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc c'est bien plus que les mots. Et Jésus savait au moment où il priait que sa prière allait être exaucée. Et notre prière, elle engage notre cœur. Ça ne se situe pas juste au niveau de notre bouche, ça engage notre cœur. Ça engage les profondeurs de notre cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter forcément. Ça demande que notre cœur soit rempli. Et Jésus, forcément, est l'exemple parfait d'un cœur rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et il ne faisait rien sans qu'il l'ait vu faire chez son Père. Toutes les situations qu'il a eues à rencontrer, il savait comment Dieu le Père agissait. Quelle était la volonté de Dieu le Père, quoi. Et nous, dans notre prière, nous avons cette possibilité-là. D'interroger le Seigneur sur « Qu'est-ce que tu veux ? Comment veux-tu que je prie ?» et de pouvoir prier de cette façon-là. Donc des prières, il y en a beaucoup dans la parole. Et il y a un homme qui a beaucoup prié et où il y a beaucoup de prières qui nous surprennent quelquefois, dans les prières que David a faites et qui sont retracées donc, dans les psaumes. Et donc, oui, certaines prières peuvent nous déranger, mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Et je sais que derrière chacune de ces prières-là, David était inspiré pour prier. Et pourquoi cet homme était un homme selon le cœur de Dieu ? Parce que dans les rois qu'il y a eu, c'était un homme qui n'a pas été dans l'idolâtrie, et c'était un homme qui s'en remettait toujours au Seigneur. Il s'en remettait toujours à Dieu dans ce qui se passait autour de lui. Il n'avait pas d'autre appui, il n'avait pas d'autre soutien que Dieu. Et donc, bien sûr, on n'a pas vu toujours ça chez les différents rois qui ont été avant lui. Enfin, il y en a un avant lui et ceux qui ont succédé. Mais David s'en remettait toujours au Seigneur. C'est pour ça qu'il pouvait prier. Donc le psaume 139, où il y a quelque chose de merveilleux, enfin, il est parlé de moi, enfin de vous aussi, mais je suis une créature merveilleuse, ce psaume qui est si riche. Mais, et comment David dit aussi, « Où irai-je loin de toi ?» Ça traduit bien quelque chose, il dit, « Mais je ne peux pas me passer de toi. Où irai-je loin de toi ? J'ai toujours besoin de toi, Seigneur. » Et dans le psaume 139, oui, versets 23-24, il dit par exemple quelque chose qui est vraiment profond, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière-là, on peut toujours la faire. Hein. Et dans le psaume 141, donc « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. » Et là, il y a quelque chose d'important, c'est bien sûr la prière, elle sort de notre bouche. Mais David savait les dangers de notre bouche, d'une bouche qui n'est pas entièrement au Seigneur. Et je vous parlais de discussions quelquefois dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Et j'observe que malheureusement, y compris dans les milieux chrétiens, on peut commencer à critiquer. Et souvent, on ferait mieux de se taire, de prier beaucoup plus que de critiquer. Donc je ne vous parle pas du monde, là, je vous parle de nous. Ayons cette sagesse. Quand quelque chose, bien sûr, hein, il y a des événements, des choses qu'on ne voudrait pas qui arrivent dans l'Église, dans les familles, etc. Mais au lieu de parler, de critiquer, fermons notre bouche, demandons au Seigneur de prier utilement, avec toute la compassion que Jésus avait pour prier pour les uns et pour les autres. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Ça aussi, c'est une prière éternelle. N'incline pas mon cœur au mal, à la pratique des méchantes actions avec les hommes qui commettent l'injustice, que je ne goûte pas à leur banquet. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me fasse des reproches, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne s'y refusera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité au flanc des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme lorsqu'on laboure et fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux, c'est en toi que je me réfugie, n'expose pas ma vie. Préserve-moi du piège qu'ils me tendent, et des embûches de ceux qui commettent l'injustice, que les méchants tombent dans leur filet, et que je n'échappe, et que j'échappe en même temps. Et David n'avait pas peur de prier pour ses ennemis, qui étaient aussi les ennemis de Dieu. Et souvent, nous, on retient notre langue. Quand il y a des choses, je ne vous parle pas de maudire, mais quand il y a des choses mauvaises qui se produisent, on peut dire au Seigneur aussi que ces choses s'arrêtent, que tu puisses leur montrer les dégâts de leurs actions et qu'ils en touchent le fond pour qu'ils puissent se rendre compte que tu es Dieu. Donc, priez sans cesse, ça s'est répété plusieurs fois, notamment par l'apôtre Paul, priez sans cesse. Et la prière, c'est comme une respiration, ça devient notre nature aussi. C'est vraiment une prière qui est toujours prête à venir sous notre bouche. C'est une prière en tout temps, en toutes circonstances. Il y a toujours, on est toujours en veille. Vous savez, nos appareils maintenant, on a juste à taper sur une touche, c'est reparti. Et ben, dans notre cœur, ça doit être pareil. Qui est juste à taper sur une touche et puis on peut repartir en prière. Notre communion avec le Seigneur reste. Et à chaque moment, on peut ouvrir notre bouche, on peut prier pour ce qui se passe autour de nous. Et toute occasion, toute occasion est une occasion de prière. Donc dans 1 Chronique 16, 11, donc là c'était David qui parlait, « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » Éphésiens 6, 18, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. » C'est vraiment notre nature que de prier. Amen. Et en préparant cette méditation, je suis retombé sur un petit feuillet de la bonne semence qui date de je ne sais pas quand. Il est parlé d'un homme célèbre qui s'appelle David Livingstone, qui a vécu en 1800. Et donc cet homme, on le croyait disparu. Et donc je vais vous lire ça. Ça s'appelle Une foi authentique. Donc en 1869, Henry Stanley, correspondant du New York Herald, journal riche d'articles à sensation, reçoit une mission du directeur. Trouver David Livingstone. Le missionnaire explorateur a été porté disparu depuis 1866 en Afrique équatoriale, alors qu'il était à la recherche des sources du Nil. En novembre 1871, Stanley retrouve enfin Livingstone. Voici ce qu'il écrit dans un de ses carnets. Je le vis, je l'écoutais. Étudier Livingstone en laissant dans l'ombre le côté religieux serait faire une étude incomplète. Il est missionnaire, mais sa religion n'est pas du genre théorique. Elle parle peu, c'est une pratique sérieuse et de tous les instants. Elle se manifeste par une action bienfaisante et continue. La piété règle sa conduite, non seulement envers ses serviteurs, mais à l'égard de tous ceux qui l'approchent. Elle a adouci cette nature ardente, cette volonté inflexible, et fait de cet homme, d'une effrayante énergie, le maître le plus indulgent, le compagnon le plus sociable. Tous les dimanches, il réunit ses compagnons, leur fait la lecture d'un chapitre de la Bible, puis il prononce une courte allocution ayant rapport au texte qu'il vient de lire. Ces quelques paroles en Kisawali sont écoutées avec un visible intérêt. De Livingstone, l'explorateur célèbre, pour sa découverte des chutes de Victoria, nous aimons retenir avant tout la foi en action. Missionnaire infatigable, imitateur du Christ son sauveur, il a été retrouvé mort, à genoux dans sa tente, mort en priant. Alléluia. Alléluia. Quel exemple magnifique. Et des hommes comme ça et des femmes comme ça, il y en a toujours. Il n'y a pas eu qu'une personne comme ça appelée pour prier, pour transformer le petit monde dans lequel il vit. Chacun de nous, on est qualifié entre les mains du Seigneur pour le faire. Et c'est Dieu qui nous qualifie. Est-ce que les musiciens peuvent monter sur l'estrade ? Donc voilà, j'avais vraiment ça sur le cœur depuis un certain temps, que nous sommes une maison de prière. Mais chacun d'entre nous, là où nous sommes. Ce parfum de bonne odeur, répandu par Christ. Cette odeur qui vient de Christ, pas de nous-mêmes. Et donc je crois que ça s'adresse à chacun d'entre nous, que nous soyons des cœurs attentifs, comme des récipients que le Seigneur a choisis pour y déverser sa parole, pour y déverser la foi, pour y déverser son esprit et que nous puissions prier en tout temps. Et je vais prier rapidement et puis on va se laisser guider par ce chant, viens me transformer. Le Seigneur veut ça pour nous. Amen Seigneur.